Vous êtes bien sur Choc FM avec Itri Hervouet. Aujourd'hui, je reçois en studio le consul général de France à Toronto, Monsieur Marc Trouillet. Monsieur Trouillet, bonjour.
Bonjour Madame Hervouet.
Comment allez-vous, Monsieur Trouillet?
Ah, mais je vais très bien et je suis ravi d'être parmi vous.
Merci d'être venu dans les studios de Choc FM ce matin. Moi, j'avais des petites questions concernant l'inscription sur les listes consulaires pour les prochaines élections présidentielles françaises. Alors, comment faut-il faire pour s'inscrire sur les listes électorales pour les présidentielles d'avril 2017, pour les Français de l'étranger?
Alors, c'est très simple. Pour s'inscrire sur les listes électorales, pour les élections présidentielles et législatives, puisqu'on aura les deux, il suffit de se rendre soit sur le site internet du Consulat de France, consulfrancetoronto.org, ou sur le site directement de servicepublic.gouv.fr, et on peut s'inscrire en ligne sur le registre des Français de l'étranger, qui permet de s'inscrire de fait sur la liste électorale consulaire ici de Toronto, Ontario. Pour cela, il faut vous munir de 3 documents scannés, une pièce d'identité, carte nationale d'identité ou passeport, une preuve de résidence dans la circonscription, donc ça peut être une facture de téléphone, une facture d'électricité, ce genre de choses, et une photo. Avec ces 3 documents, vous remplirez un questionnaire en ligne. À partir de là, vous téléchargez vos 3 documents scannés et les services consulaires valideront votre inscription dans la foulée.
Et pour quel type d'élection? Donc vous m'avez dit les présidentielles, les législatives. Est-ce qu'il y a d'autres élections où les Français de l'étranger peuvent voter? Par exemple, il y a eu les primaires d'un parti en France. Est-ce que là, il y a les primaires d'un autre parti? Est-ce que, par exemple, les Français de l'étranger peuvent voter pour ça, pour les régionales aussi?
Alors, il y a effectivement plusieurs élections pour lesquelles les Français de l'étranger peuvent voter. Il y a d'abord les élections présidentielles et législatives. Alors, pour vos auditeurs, je rappelle les dates. 22 avril et 6 mai pour le premier et le deuxième tour de la présidentielle. 3 juin et 17 juin pour le premier et le deuxième tour des législatives. Donc ça, ce sont les élections qui sont devant nous. Il peut y avoir aussi les élections européennes pour lesquelles les Français l'étranger votent. Et puis, il peut y avoir, c'est moins fréquent, des référendums. Ça, c'est pour des élections, on va dire, à caractère national. Et puis, il y a des élections particulières aux Français l'étranger qui sont celles par lesquelles ils élisent des conseillers consulaires, qui sont leurs représentants locaux, qui eux-mêmes sont des grands électeurs qui vont ensuite participer à l'élection des sénateurs de l'étranger. Donc voilà, ça c'est les élections que le consulat et la République, à travers le consulat, organisent pour les Français de l'étranger. Maintenant, vous avez mentionné les primaires. Les primaires, les Français de l'étranger peuvent bien évidemment y voter, mais là ce n'est pas du tout le consulat qui organise, ce n'est pas du tout le site servicepublic.gouv.fr, ce sont les partis eux-mêmes qui organisent ces primaires. Et là, il faut aller sur leur site internet pour voir les modalités précisément de vote.
Et jusqu'à quelle date on peut s'inscrire sur ces fameuses listes consulaires en tant que Français?
Alors merci de rappeler ce point très important, parce que les élections, le premier tour des élections présidentielles, c'est le 22 avril, mais la clôture des inscriptions sur les listes électorales, c'est le 31 décembre de cette année. Donc il faut s'inscrire avant, puisque comme je vous l'ai dit, il faut aussi laisser le temps de valider votre inscription par les services consulaires au regard des pièces justificatives que vous aurez téléchargées. Donc faites-le avant le 31 décembre de cette année.
Et est-ce que vous pouvez me rappeler, pour les auditeurs, quelle est l'importance de s'inscrire sur ces listes consulaires? Parce que vous pouvez forcément, donc, si vous êtes inscrit, voter, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être importantes quand vous êtes inscrit sur les listes consulaires?
Alors, les listes consulaires que l'on appelle aujourd'hui le registre des Français établis hors de France, le nom officiel de cette liste-là, ça permet globalement deux fonctions. La première, c'est une fonction liée à la sécurité. Quand on a ces listes-là, on peut communiquer avec les Français en cas d'événement tragique important. C'est par exemple ce que l'on a fait au moment des attentats du 13 novembre ici. On l'a utilisé pour communiquer avec l'ensemble de la communauté française inscrite au registre des Français établis hors de France. Au Canada, c'est un pays très sûr, donc c'est une éventualité qui est sans doute pas beaucoup à redouter. Encore que, on peut avoir des catastrophes naturelles ou ce genre d'événements qui nécessitent éventuellement de communiquer en masse. C'est plus vrai, effectivement, cet impératif de sécurité et de connaître la communauté dans des pays qui sont susceptibles de connaître des violences urbaines ou des violences politiques plus importantes. Donc, premier aspect, sécurité. Et puis ensuite, être inscrit sur le registre des Français établis hors de France, ça permet également de faciliter un certain nombre de démarches administratives que les Français de l'étranger peuvent faire quand ils sont à l'étranger, que ce soit inscrire leur enfant à l'état civil quand il y a une naissance ou quand ils se marient, inscrire leur mariage à l'état civil français. Ça peut être également, évidemment, établir ou renouveler son passeport ou une carte nationale d'identité ou d'autres démarches, peut-être notariales aussi, puisqu'on établit un certain nombre d'actes notariés pour le compte de Français qui ont des opérations à mener en France. Voilà, donc on a toute cette série de services et être inscrit sur la liste des Français établis hors de France, ça permet de faciliter l'ensemble de ces démarches parce qu'il y a déjà un certain nombre de documents qui sont disponibles à l'administration et qui permettent d'accélérer la procédure.
Et par exemple, moi, j'étais en train d'en parler avec une Française que je connais qui me disait, si tu perds ton passeport et que t'es pas inscrit sur les listes consulaires, ça peut être très problématique. Est-ce que c'est vrai?
Alors, disons que c'est pas une volonté de l'administration, mais c'est concrètement, quand un Français résident, par exemple, à Toronto, perd son passeport et vient nous voir, donc il vient nous voir obligatoirement et nécessairement avec la preuve de la perte, c'est-à-dire une déclaration de perte auprès des autorités de police. Donc, nanti de cela, s'il est déjà effectivement inscrit au registre des Français, on a déjà toute une série de documents. On a éventuellement dans les dossiers, on a une photocopie de son passeport peut-être déjà, une photocopie de son acte de naissance, une photocopie de voilà, ce genre de documents, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir établir ou refaire une demande de passeport très très vite, puisqu'on a l'ensemble des documents. Si on les a pas, la problématique, ça va être pour le Français en question de rechercher tous ces documents, parce que bien évidemment, ce sont des titres de voyage sécurisés, hein, puisque les passeports aujourd'hui, ce sont des passeports dits biométriques, donc on prend les empreintes digitales des Français qui demandent ce passeport. Donc ça demande effectivement un certain nombre de vérifications, en particulier de la vérification de la nationalité française de la personne en question. Donc si on a déjà tous les papiers, tout ceci va beaucoup plus vite. Si on les a pas, eh bien il faut évidemment rentrer toutes ces données dans la base de données.
Et est-ce que on doit renouveler son inscription c'est-à-dire que si on est inscrit une fois, on doit renouveler son inscription ou est-ce qu'on est inscrit plus ou moins à vie dans le pays où on est?
Il n'y a plus rien aujourd'hui qui se fait à vie.
Je me doutais bien.
Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est renouveler son inscription tous les 5 ans. Ce qui se passe, c'est que 3 mois généralement avant l'échéance de ces 5 ans, les Français reçoivent un courrier du consulat leur disant « Voilà, ça fait bientôt 5 ans que vous êtes inscrit, on veut vérifier que vous êtes toujours habitant dans la circonscription et on vous demande de nous signaler que vous souhaitez effectivement renouveler votre inscription. » Donc tous les 5 ans. Et puis évidemment, les Français qui sont à l'étranger, ils peuvent parfois changer, ils peuvent déménager, ils peuvent simplement déménager au Canada, ils peuvent passer de Montréal à Toronto par exemple. Et à ce moment-là, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils actualisent leur dossier et qu'ils nous signalent qu'ils ont déménagé et ils nous fournissent à ce moment-là juste la preuve de leur nouvelle adresse. Et donc maintenant, ils seront à ce moment-là, de nouveau pour 5 ans, enregistrés à la nouvelle adresse.
Et moi, j'ai une petite question. Ça fait combien de temps que vous êtes consul et quel est pour vous votre bilan en tant que consul? Consul, bien sûr, de Toronto.
Alors, ça fait un peu plus de 15 mois que je suis là, parce que je suis arrivé en septembre, août-septembre 2015. Et je suis consul général en charge de deux provinces du Canada, l'Ontario et le Manitoba, basé à Toronto. Le bilan, c'est peut-être un petit peu trop tôt encore pour parler d'un bilan, mais en tout cas, ce que j'ai constaté pendant cette année-là, c'est peut-être trois choses en particulier. D'abord que la communauté française ici en Ontario et au Manitoba dans une moindre mesure est nombreuse, active, impliquée dans la vie de la communauté et en croissance. Et ça, c'est quelque chose d'assez notable. Alors, c'est pas une croissance non plus faramineuse, mais je ne cesse de rencontrer des Français qui m'expliquent qu'ils viennent d'arriver, soit directement de France, soit d'une autre province canadienne. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un dynamisme de la présence française ici dans tous les domaines. Ça, je les rencontre à l'université, je le rencontre dans les petits commerces, dans les start-up, des étudiants, des PVTistes. Donc, il y a effectivement une présence française très dynamique. La particularité de cette communauté française très nombreuse, très dynamique, c'est qu'elle est quand même, malgré tout, pas si visible que ça. Elle est peut-être pas aussi visible qu'elle pourrait l'être, entre autres choses parce qu'elle est pas dans un quartier en particulier. Je veux dire, on est dans une ville très communautaire, Toronto, et on a le quartier grec, le quartier italien, le quartier ukrainien, le quartier, etc. On n'a pas de quartier français, véritablement en tant que tel, donc c'est effectivement moins visible. Mais voilà, grand dynamisme. Deuxième constatation très claire que je fais de cette première année, c'est qu'il y a en Ontario une vraie francophilie. Alors il y a évidemment une présence francophone dynamique, vivante, forte, puisque plus de 630 000 francophones, sans doute de personnes qui savent parler le français et qui peuvent le parler plus d'un million.
C'est juste en Ontario.
En Ontario seul, oui.
C'est en Ontario. Ontario seul,
oui. Ça, ce sont les chiffres de 2011, c'est-à-dire du recensement de 2011. On attend l'exploitation du recensement de 2016 pour savoir combien de francophones qui parle le français à la maison, parce que c'est la définition retenue par les autorités, sont en 2016 à la date du dernier référendum, du dernier recensement. Mais cette francophonie, donc, elle s'explique évidemment par une vraie francophonie existante et agissante, mais aussi, on l'a vu s'exprimer dans des mouvements douloureux lors des attentats du 13 novembre ou du 14 juillet, 13 novembre 2015, 14 juillet 2016, où la solidarité des Torontois et plus largement des Ontariens et des Manitobains s'est manifestée. Il y a eu des manifestations devant énormément d'hôtels de ville, des marches silencieuses. Donc, dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments festifs, lors du 14 juillet, la célébration du Bastille Day, comme on dit ici à Toronto, on a réuni une foule de plus de 4000 personnes. Donc, une vraie francophilie, francophonie, qui s'exprime par un besoin, une demande de français à l'école. Donc, ça, vous le constatez vous aussi. Mais aussi, moi, je le constate dans un aspect plus économique ou commercial, une reconnaissance et une demande d'expertise française dans différents domaines, que ce soit dans les domaines industriels, le domaine des startups. Il y a la créativité, la précision, la rigueur des entrepreneurs, de l'expertise française est reconnue et recherchée. Donc ça, c'est évidemment quelque chose d'intéressant, même s'il y a des difficultés, même s'il y a plein de choses, mais ça, c'est quand même très notable. Et puis, dernier point, mais peut-être qu'on y reviendra parce que c'est à lui seul un vrai sujet, c'est qu'il y a un potentiel d'accroissement des échanges entre l'Ontario et la France dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine universitaire, dans le domaine scientifique, dans les domaines économiques, dans les domaines de relations humaines, tout simplement, touristiques ou autres, qui est extraordinairement fort.
Et est-ce que vous avez des projets phares en ce moment au consulat? Vous m'avez déjà parlé des Français de l'Ontario. Quels sont vos projets en ce moment au consulat et quels sont vos futurs projets?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de projets phares. On a une multitude de projets. On a un service culturel et scientifique au consulat également qui inscrit son action plus généralement dans celle de la France au Canada. Avec les actions que font nos collègues à l'ambassade de France à Ottawa. Donc on a une multitude de projets, encore une fois dans tous les domaines. En matière d'éducation, il y a énormément d'accords entre des écoles, des districts scolaires de l'Ontario et des académies en France. Et en fait, on a constaté que dans tout le Canada, quand on compte ces accords, il y en a la moitié qui sont en Ontario. Donc là, on a déjà beaucoup de choses qui se font et qui continuent de se faire et qui se traduisent par des échanges de professeurs ou d'élèves ou de pratiques pédagogiques. Donc ça fait partie des choses que l'on souhaite continuer et approfondir en discussion avec les conseils scolaires d'une part, mais aussi avec le ministère de l'Éducation de l'Ontario en particulier et du Manitoba également, avec la perspective d'avoir des accords qui puissent être signés. On souhaite également poursuivre et approfondir les échanges d'étudiants. C'est important parce que voilà, quand les jeunes voyagent, quand ils connaissent et qu'ils comprennent ce qui se passe à l'étranger, ils en reviennent d'abord enrichis eux-mêmes, c'est une certitude, et en même temps, après, ils sont plus et mieux capables de comprendre et expliquer l'autre, et à partir de là, de nouer des liens et des relations. Donc notre objectif, effectivement, c'est, dans le cadre d'un accord d'échange des jeunes entre la France et le Canada, d'avoir encore plus de jeunes Canadiens qui viennent en France. Donc il y a plusieurs projets qui sont en cours, dont notamment la possibilité que l'on souhaite développer d'avoir des jeunes Canadiens qui viennent faire des stages dans des entreprises françaises en France, mais qui ont des filiales aussi au Canada, de façon à ce qu'ils fassent ce lien. Autre sujet qui va devenir, énorme pour nous aussi, c'est la mise en œuvre de l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada, le CETA pour l'acronyme anglais, AECT pour l'acronyme français, qui est un accord à travers lequel on sait qu'il va y avoir nécessairement et des délégations d'industriels et d'entreprises françaises et canadiennes, et des déplacements également à un niveau plus politique pour accompagner ce moment dont on attend effectivement beaucoup en termes de progression des échanges. Justement, pour accompagner cela, ce sur quoi on travaille aussi, c'est la recréation à Toronto d'une chambre de commerce franco-canadienne à Toronto, parce que c'est important d'avoir aussi un lieu où les entreprises s'organisent, et donc la communauté d'affaires française s'organise d'une part, mais également est en capacité d'interagir avec, avec ses partenaires canadiens, anglophones plus largement. Donc ça fait aussi partie des éléments sur lesquels on travaille. Et puis à long terme, on a toujours des grands événements que l'on souhaite répliquer. En particulier, on a organisé en octobre 2016 avec la Fondation Prospective Innovation de Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre de la France. On a organisé un vaste sommet des investissements France-Canada. On souhaite pouvoir le réitérer cet exercice en octobre prochain, de même que des exercices sur les problématiques d'innovation. L'innovation, c'est un des axes importants et forts des échanges entre la France et l'Ontario, parce que en Ontario, il y a un écosystème innovation très développé, que ce soit d'abord et avant tout dans la région Toronto-Waterloo, mais aussi autour d'Ottawa. Il y a des universités, il y a des incubateurs, il y a des dispositifs, il y a des start-up absolument fantastiques, aidés, encadrés, qui sont très professionnels, avec lesquels des échanges sont possibles avec leurs homologues français, et c'est ce à quoi on s'y emploie aussi.
Et est-ce que vous pourriez me dire si, alors sans parler et sans donner votre avis politique, est-ce que vous suivez un peu les élections présidentielles françaises ?
Bah, comme tout citoyen, bien sûr, oui, je les suis, avec grand intérêt même.
Ok, parce que moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a par exemple, il y aura une petite soirée organisée le jour du deuxième tour, vous pouvez me redonner le jour, c'est le 6 mai ?
Le 6 mai, 2017. Le 6 mai effectivement c'est le jour des élections elles-mêmes. Alors la particularité c'est que ça c'est les élections telles que nous les organisons, puisque on les fait à ce moment-là, il y aura 3 bureaux de vote qui sont organisés, hein, mm-hmm. 2 au consulat ici à Toronto, et 1 à Ottawa, à l'ambassade, puisque une partie de la communauté française de l'Ontario est installée effectivement à Ottawa, dans cette région. Mais vous avez noté que le 22 avril et le 6 mai, ce sont des samedis. Les élections en France se tiennent le dimanche, c'est-à-dire le lendemain. Et on l'a fait les samedis pour la raison simple que, avec le décalage horaire, si on avait organisé les élections le dimanche, les Français seraient venus voter en Amérique. Enfin, c'est vrai pour l'ensemble de la région, enfin des régions Amériques. Si on avait organisé les élections le dimanche, les Français seraient venus voter alors que le résultat aurait déjà été connu. Ça aurait été un petit peu dommage.
Mais d'ailleurs, j'étais en train de regarder les élections présidentielles américaines il y a quelques semaines et je me dis, mais au moment où les Californiens ont encore la possibilité de voter, il y a déjà beaucoup d'États qui ont fermé leur bureau de vote et il y avait déjà beaucoup de résultats. Donc c'est vrai que le résultat peut être, les gens peuvent aller voter tout en sachant déjà qui va être potentiellement élu.
Alors aux États-Unis, oui, parce que c'est un vote, comme vous le savez, particulier, hein, par État, avec par État. Élection de grands électeurs. En France, on a une circonscription unique.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Donc ce qui va compter, c'est la totalisation du nombre des voix. Donc chaque voix compte, y compris, bien sûr, celle des Français de l'étranger. Donc j'invite tous nos compatriotes à s'inscrire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, jusqu'au 31 décembre, et ensuite à venir voter, évidemment. Voter, comme on dit en France, c'est un devoir civique. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir civique. Donc venir voter le samedi 22 avril et le samedi 6 mai, ça sera l'occasion de voter avant que le résultat ne soit là. Donc c'est d'autant plus important. Est-ce qu'on va organiser, pour revenir à votre question, une cérémonie le dimanche à 14h, puisque ça sera de fait à 14h, il sera 20h à Paris, et on sait qu'à 20h, on a... honnêtement, je ne suis pas certain que le dimanche à 14h, on peut organiser une grande manifestation, mais pourquoi pas sur Choc FM, ça pourrait être... si c'est une invitation, je l'accepterai avec plaisir.
Et est-ce que vous pourriez me dire, pour vous, quelle est la pertinence d'une radio d'expression française pour les expatriés de notre communauté, pour les Français ?
Je crois que C'est très important d'avoir, quand on arrive à l'étranger, quand on s'expatrie, pour la première fois ou pas d'ailleurs, que l'on ait rapidement des références. Quand on arrive dans un pays étranger, il faut tout reconstituer. Il faut reconstituer un réseau social, il faut reconstituer des démarches administratives. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent sembler un petit peu étouffantes parce qu'on a tout à faire en même temps. Avoir et savoir qu'il existe une radio communautaire où l'on peut avoir des informations, c'est finalement quelque part une façon d'aller plus vite, d'être sûr des démarches que l'on doit faire, de celles que l'on peut faire, et de trouver la bonne information au bon moment. Donc c'est un formidable accélérateur d'installation pour les expatriés qui arrivent. Et puis pour ceux qui sont déjà là, je trouve que Choc FM et les services que vous offrez, je pense en particulier au site internet Grand Toronto, c'est aussi une façon d'accéder à l'information, aux services, aux spectacles, à ce qui se passe et qui permet à une communauté de se retrouver. Donc, je trouve que c'est au contraire quelque chose de formidable.
Bon, la dernière question, me rappeler exactement jusqu'à quel moment on peut s'inscrire sur les listes consulaires pour les prochaines élections présidentielles.
Alors, la date à retenir, c'est 31 décembre. 31 décembre, c'est l'ultima ratio, le dernier moment. Ne le faites pas au dernier moment, faites-le au moins avec 24 heures d'avance, sinon plus. Mais effectivement, nous clôturons l'ISE le 31 décembre.
Donc il faut avoir une photo d'identité scannée, une preuve de résidence à Toronto et une carte d'identité, que ce soit le passeport ou donc la carte d'identité.
Absolument, et vous devez les télécharger et remplir le formulaire en ligne sur servicepublic.gouv.fr ou vous allez sur le site du consulat de France, consulfrancetoronto.org. J'ai oublié, il y a un tiré quelque part, mais voilà, donc vous googlisez consulat général de France à Toronto et vous le trouvez, et vous remplissez en ligne, téléchargez ces trois documents. Et ensuite, rapidement ensuite, votre inscription sera validée.
Monsieur Trouillet, merci beaucoup. Vous êtes donc le consul général de France à Toronto. Vous êtes pour l'Ontario et le Manitoba. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous étiez sur Choc FM 105.1 avec Kitry Hervouette.